Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Juin et donc Juin, normalement, on devrait voir un beau ciel avec le balcon des étoiles. Et nous nous retrouvons donc avec ces nouvelles du ciel. Denis, Jacques sont avec nous.
Oui, bonjour.
Tous les deux au balcon des étoiles, les Pléiades à la trappe. Et aujourd'hui, nous allons parler de lumière. Jacques, bonjour.
Bonjour.
La lumière et cette pollution lumineuse. Pourquoi on parle de pollution lumineuse ?
C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre ce mot-là. On entendait souvent la pollution atmosphérique, les différentes pollutions d'usines, les pollutions en fait diverses et variées. Mais la pollution lumineuse, en fait, est quelque chose qui a été pris en compte depuis des dizaines d'années déjà. Et on voit que cette nouvelle pollution, qui est un peu plus sournoise, s'infiltre dans toutes les villes, dans tous les petits villages maintenant, vient dégrader en fait notre environnement nocturne. Le ciel étoilé, bien sûr, en premier lieu, mais pas que, il y a la faune, surtout la flore, qui souffre en fait de cette nouvelle pollution lumineuse.
Pourquoi la flore ?
Eh bien, parce que si vous éclairez, par exemple, un endroit verdoyant, ça fait des milliards et demi d'années, enfin 4 milliards et demi d'années que le jour et la nuit s'alternent.
Oui.
Voilà, naturellement, par notre, on va dire, insouciance et volonté d'éclairer à tout prix la nuit, bon, pour de multiples raisons, on perdure en fait la durée du jour ou on installe un jour artificiel dans la nuit, ce qui ne correspond pas du tout à la faune et à la flore qui est habituée comme nous,
oui,
à vivre naturellement de la succession du jour et de la nuit.
Mm-hmm.
On va parler des plantes qui ne se reposent pas, on va dire, lorsque la lumière est intense autour d'eux, les insectes qui viennent se détruire en fait dans ces endroits de forte lumière. Ça fait une dévastation d'insectes en fait qui est beaucoup plus importante que celle qu'on croit liée à l'agriculture.
D'accord.
Donc les lumières en fait de nos villes, de nos routes,
mm-hmm,
dégradent énormément notre environnement nocturne, forcément.
Oui.
Bon, on parlera bien sûr aussi du ciel, puisque nous y sommes très attachés, donc
oui,
il est normal que ce soit nous qui mettions en fait toutes ces alertes au public, quoi.
Mm-hmm. Et cette pollution lumineuse empêche justement de voir le ciel ?
Oui. Ben oui, forcément, parce que si vous voulez, le ciel, la Voie lactée, les étoiles sont forcément liées à la qualité de notre ciel. Donc
oui,
plus nous sommes dans un endroit préservé, où il n'y a pas trop de lumière gênante, assez éloigné des routes à grande circulation, ben là on va bénéficier d'un ciel sombre,
oui,
d'un environnement sombre qui va faire ressortir forcément beaucoup plus d'étoiles et essentiellement la Voie lactée, hein. Je suis sûr que maintenant, au XXIe siècle, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu la Voie lactée. Et je pense que si on laisse faire, dans les années à venir, on verra de moins en moins la Voie lactée.
D'accord.
C'est sûr. C'est sûr.
D'accord. Si je comprends bien, cet effet de pollution lumineuse empêche, même à des gens comme vous qui êtes au balcon des étoiles et qui avez des appareils, empêche de voir les plus petites étoiles, celles qui mettent le moins de lumière possible.
C'est ça, nous avons de plus en plus de mal. Alors la trappe, ça va, je veux dire, c'est un endroit où on est encore préservé,
oui,
des grosses lumières, mais il faut y faire attention, il faut rester vigilant, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et pour nous, là, nous avons en charge, en fait, de sensibiliser les élus,
oui,
par différents moyens, différentes méthodes, des entretiens, des conférences que l'on leur donne pour leur faire prendre conscience que cette nouvelle pollution lumineuse va détruire notre environnement
oui,
rapidement. Notre,
oui,
environnement nocturne, forcément, mm-hmm, rapidement, quoi.
D'accord. Est-ce que, par exemple, vous qui êtes au balcon des étoiles à la trappe, quand vous pointez vos télescopes vers le nord, c'est-à-dire en direction de Toulouse, est-ce que cette bulle lumineuse qui se voit à l'œil nu vous empêche justement d'observer le ciel ?
Alors non seulement Toulouse, bon, qui est une grosse agglomération, c'est vrai, génère un halo de lumière
tout
très important,
fait,
donc nous empêche effectivement de voir le ciel étoilé dans sa direction, mais pas que. Des grosses villes comme Carbone génèrent aussi de la lumière, forcément. Les villes proches, Carbone, Rieux, Montesquieu, génèrent effectivement de la lumière qui se voit quand même de très loin. Quoi.
Oui, bon. Et donc ces lumières-là vous gênent dans votre observation du ciel ?
Ah ben nous, elles nous gênent dans notre observation du ciel, mais on ne peut pas dire que, bon, gênent les astronomes, effectivement, oui. qui s'intéressent au ciel en premier lieu.
Oui.
Mais après, toutes les conséquences que ça engendre...
Tout à fait, je comprends.
Sont beaucoup plus importantes, on va dire, que la poignée peut-être que nous représentons.
Oui.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Oui.
C'est qu'en fait, c'est pas une plainte, on va dire, ou une réflexion personnelle ou qui ne concerne qu'un petit groupe de personnes. Ça concerne vraiment l'environnement nocturne en général, la faune, la flore et l'individu, tel que l'individu chez lui. Il n'a pas besoin d'avoir de la lumière peut-être dans sa chambre, parce que vu l'intensité des lumières que l'on nous propose maintenant, la puissance est telle que la lumière pénètre dans les habitations.
Oui.
Alors que bon, avant, elle était douce, elle était raisonnée, il y en avait moins. Et maintenant, d'un seul coup, on va vers l'abondance de lumière parce qu'on a encore des préjugés qui disent que lorsque l'on éclaire, en fait, on est sûr d'avoir de la sécurité. Quand on génère de la sécurité, ça, c'est fini.
Oui.
C'était au 19e siècle, ça. Mais maintenant, la lumière ne génère plus...
Oui. Quelle est l'importance, justement, de la lumière des étoiles, de la lumière de la Lune sur la planète Terre ? Parce que ça doit avoir une importance, puisque c'est cyclique aussi, ça revient cycliquement.
Ben, comme on le disait, c'est les astronomes qui déclenchent en fait l'alerte,
oui.
Puisque eux sont réveillés en fait quand il fait nuit, donc
et
effectivement.
Oui.
Donc et eux, bon, forcément, nous on voit à la trappe encore une fois, c'est vrai que c'est relativement encore protégé, on va dire,
oui.
Mais il faut rester vigilant. Mais par contre, dans les villes, si vous allez à Place du Capitole à Toulouse, on doit voir 10 étoiles, quoi.
D'accord.
Alors qu'en principe, on en voit 3500 à peu près.
Ah oui,
donc
c'est
donc il
n'y
a
énorme.
Plus que 10 étoiles, la Lune, voilà, et puis le Soleil,
oui.
qui sont visibles du centre-ville de Toulouse. Après, c'est...
La municipalité de la Trappe, d'ailleurs, a fait la démarche d'éteindre les lumières. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, c'est la municipalité de La Trappe a participé à une opération que l'on appelle « Ville et villages étoilés ». C'est un concours qui est présenté tous les 3 ans, qu'un village peut donc se porter volontaire pour présenter ce concours. Et donc, suite à ça, il s'est engagé à utiliser la lumière raisonnablement.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le conseil municipal s'est réuni et ils ont opté pour une extinction nocturne de l'éclairage public. On va parler du bienfait en fait de cette décision, aussi de l'économie. Sur un budget d'un village comme La Trappe, l'économie engendrée par cette extinction nocturne est quand même relativement importante.
Tout à fait, je comprends.
Donc le budget est aussi à prendre en compte forcément dans cette nouvelle pollution.
Mm-hmm.
Quoi.
Bien, pensez un petit peu plus sur cette pollution lumineuse. On va parler maintenant avec Denis,
oui.
De la lumière des astres, pour rester dans ce thème de luminosité. La lumière des astres, c'est, on avait dit dans nos précédentes émissions, la lumière du soleil qui est réfléchie par les astres, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Hein. Ce qui permet de distinguer les planètes des étoiles. Hein. Donc je rappelle que une étoile, c'est un corps, c'est une boule de gaz qui vit par sa propre lumière, qui émet de la lumière dans toutes les directions de l'espace, tandis que les planètes sont des astres qui sont morts et qui ne font que réfléchir la lumière d'une étoile qui est située donc à proximité dans l'environnement, donc notamment dans le système solaire.
Oui.
Les planètes jouent le rôle en fait de miroir. Elles ne font que réfléchir la lumière d'une étoile à proximité, du Soleil. Et si nous pouvons voir les planètes dans le ciel, eh bien c'est grâce au Soleil. Il n'y aurait pas de Soleil, il n'y aurait pas d'étoiles dans le système solaire, eh bien on ne pourrait pas voir les planètes dans le système solaire. Et c'est pour ça aussi que quand on observe la Lune, ou quand on observe aussi les planètes, eh bien il y a une face qui est orientée vers la lumière, qui nous éclaire,
oui.
Et il y a une autre face qui est dans l'obscurité. Donc ça prouve que les planètes n'émettent pas des rayonnements dans toutes les directions oui. de l'espace, contrairement aux étoiles.
Et ouais. ça, ça prévaut pour toutes les étoiles que l'on peut voir, même à l'œil nu.
Oui, tout à fait. Hein, toutes les étoiles émettent de la lumière dans toutes les directions de l'espace.
D'accord.
Voilà. C'est grâce à elles qu'on peut mettre en évidence l'existence d'exoplanètes, par exemple, des planètes extrasolaires, hein, qui gravitent autour d'autres étoiles. Donc, à l'heure actuelle, on dénombre plusieurs milliers d'exoplanètes, hein, qui ont été détectées autour d'autres étoiles dans notre galaxie, hein, qui est la Voie lactée. Hein.
Oui.
Cet immense amas d'étoiles, hein, qui contient à peu près 200 milliards d'étoiles. Hein, 200 milliards d'étoiles. Donc, nous, on a la chance aussi d'avoir toute une gamme d'étoiles différentes, des étoiles jeunes, des étoiles vieilles. Et le Soleil, dans tout ça, ben, c'est une étoile banale. Hein,
oui.
Parce qu'il y a des étoiles bon, qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus grosses, dont les températures aussi de surface varient, hein, de 3000 degrés à 40-45 000 degrés à la surface, hein, ce qui est considérable.
Oui.
Bon, le Soleil, lui, sa température de surface est de l'ordre des 5700 degrés. Voilà.
Oui.
Donc,
faut pas trop s'approcher.
Tout à fait. Donc, pour faire en fait le lien justement avec la pollution lumineuse, c'est que la pollution lumineuse, c'est un problème qui s'ajoute en fait au problème lié à l'absorption du rayonnement par l'atmosphère. Hein, parce que en fait, nous recevons qu'une fraction en fait du rayonnement. Hein. Bon, il existe différentes sortes de rayonnements. Bon, vous avez des rayonnements qui sont visibles. Hein. Toutes les couleurs que nous voyons autour de nous,
oui.
du rouge au bleu, via le jaune et le vert, ce sont des couleurs qui sont perceptibles par l'œil. Hein, notre rétine, hein, fond de l'œil, est capable de pouvoir distinguer ces différents rayonnements, hein, qu'on appelle du visible. Mais il existe aussi des rayonnements qui sont invisibles à l'œil nu, hein, tels que les rayonnements gamma, les rayonnements ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, tout ça, ce sont des rayonnements qui sont invisibles à l'œil nu.
Oui.
Et ces rayonnements vont avoir un comportement bien particulier à chaque fois qu'ils rentreront dans l'atmosphère. En astronomie, en fait, on observe dans deux fenêtres, qui est la fenêtre du visible, hein, c'est-à-dire toutes les couleurs que nous pouvons voir, et puis le domaine radio. Voilà, on peut utiliser des récepteurs radio, hein, qu'on appelle aussi des radiotélescopes, et qui permettent de capter des rayonnements radioélectriques provenant de l'espace. Par contre, des rayonnements comme les rayonnements gamma ou les rayons X vont être gênés par la présence de molécules de diazote, hein, de nitrogène et de dioxygène présentes dans l'atmosphère. Et ceci sur des distances variant de 20 à 10 fois plus, à 200 km d'altitude. Donc ces rayonnements-là sont piégés justement par ces molécules et il n'y a qu'une infime petite fraction, voire très très peu de rayonnement qui arrivera à arriver au niveau du sol.
Oui.
Hein, mais 99% de ces rayonnements sont absorbés justement par ces molécules de dioxygène et de diazote qui constituent notre atmosphère. Après, vous avez les molécules d'eau, par exemple, ou les molécules de dioxyde de carbone, hein, de gaz carbonique, qui, elles, vont absorber le rayonnement infrarouge. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on place des télescopes infrarouges ou rayons X ou à rayons gamma au-delà de l'atmosphère pour pouvoir justement capter ces fameux rayonnements. Vous voyez que le problème, c'est que nous sommes confrontés à un problème lié à l'atmosphère qui absorbe une bonne partie du rayonnement. Hein. Et puis, ces problèmes-là vont se cumuler avec les problèmes de la pollution lumineuse qui est produite par l'homme.
Et oui, parce qu'en fait, si je comprends bien oui. votre raisonnement, l'atmosphère absorbe la lumière qui arrive des étoiles, mais elle ne laisse pas passer la notre lumière, notre pollution. Elle la retient aussi.
Voilà, tout à fait. Il y a notre rayonnement, produit par l'homme, aux différents types d'éclairage qui existent au niveau de la surface, qui est piégé, en fait. Oui. Il y a des effets de diffusion, en fait, de la lumière. Hein.
Oui.
Par exemple, si vous prenez une lampe torche et que vous l'allumez dans le brouillard, eh bien, vous allez avoir une diffusion, en fait, de la lumière dans le brouillard. Et justement, tout corps a des propriétés justement à réfléchir justement la lumière qui est située à proximité. Hein. Ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être la végétation, ça peut être n'importe quel type d'objet. Hein. À partir du moment où vous avez une source lumineuse qui est située à proximité, vous avez des phénomènes de réflexion de la lumière.
Oui.
Donc ça génère justement des rayonnements, des parasites et qui gênent donc l'observation justement du ciel.
Oui.
Bon, il y a des alternatives par rapport à ça. Hein. Il suffit de revoir la puissance des ampoules qui sont utilisées.
Oui.
Il y a l'orientation aussi du faisceau lumineux. Hein. On peut raisonnablement éclairer, d'accord, mais il s'agit de bien orienter justement les faisceaux et bien choisir les sources incandescentes des lampes. Hein, maintenant, on utilise beaucoup les lampes à LED, d'accord. On peut jouer sur la puissance justement de ces lampes également et de telle sorte justement à ne pas pénaliser justement la population de toute lumière, d'accord, de pouvoir trouver un juste milieu et de faire en sorte à limiter donc cette diffusion de la lumière à l'extérieur qui peut gêner l'observation justement du ciel.
Alors justement en parlant de ça, il y a une autre question qui m'est venue en vous écoutant. On parle que la Terre est une planète bleue.
Oui, tout
donc,
à fait.
C'est aussi de la pollution. C'est quoi qui fait que notre Terre est planète bleue?
Si nous voyons le ciel bleu, tout simplement, c'est que en fait, les rayonnements bleus, en fait, la lumière blanche du soleil est composée donc de rayonnements rouges, de rayonnements bleus, entre autres. Et les rayonnements bleus, eux, ils vont être en quelque sorte freinés par l'atmosphère, hein, par les molécules de l'atmosphère. Et là, on aura un effet en fait de diffusion au niveau du ciel. Et c'est pour ça que les rayonnements rouges, quant à eux, nous parviennent plus facilement à notre œil et on assiste à des phénomènes physiques qu'on appelle notamment le rougissement stellaire, hein, le rougissement des étoiles. Pourquoi ? Parce que le rayonnement bleu, lui, eh bien, il est freiné justement par les molécules qui constituent notre atmosphère.
D'accord.
Et ça, surtout dans des atmosphères à très haute altitude comme l'ozone, hein, qui est une molécule constituée de 3 atomes d'oxygène, hein, qui est un dérivé de l'oxygène, hein, mais avec 3 atomes d'oxygène, et qui a des propriétés qui facilitent justement la diffusion de la lumière dans l'atmosphère et qui nous protège aussi également des rayonnements particulièrement nocifs provenant du soleil, tels que les rayonnements gamma ou les ultraviolets, tout à fait. Et grâce justement à cet effet de diffusion de la lumière bleue autour de notre globe, eh bien, ça a des propriétés réfléchissantes aussi dans l'espace. C'est-à-dire que quand on étudie le rapport entre la lumière qui est reçue par le soleil et la lumière qui est renvoyée dans l'espace, eh bien, on parle dans ces cas-là d'albédo. Hein, l'albédo qui correspond à la Terre, ça correspond à 35%. Ça veut dire que vous avez 35% de la lumière solaire en fait, qui est renvoyée dans l'espace. Si je prends des planètes comme Vénus, par exemple, eh bien, elle a un albédo qui tourne entre 0,06 et 0,07. Hein. À peu près entre 60 et 70%. Donc c'est pour ça que Vénus est la planète la plus brillante du ciel. Pourquoi ? Parce qu'elle a un albédo hein, qui est particulièrement important, qui est le double de celui de la Terre. Par contre, des corps comme Mercure, par exemple, ou la Lune, hein, à cause de la présence de régolithes, eh bien, on a des albédos qui sont relativement faibles, c'est-à-dire des pouvoirs réfléchissants en fait, dans l'espace qui sont particulièrement faibles.
D'accord. Voilà. Et pourtant, on la voit très bien, la Lune.
Oui, parce qu'elle est proche de nous.
D'accord. D'accord.
Mais si on était observateur sur une autre planète du système solaire, eh ben, elle présenterait un éclat qui est quand même très, très faible.
Donc, très bien. Voilà. Ben voilà, on en a des renseignements. Le balcon des étoiles, bon, ça fonctionne, et là, cet été particulièrement, ça va fonctionner, puisqu'avec les beaux jours, c'est vrai que les nuits sont plus douces et que les gens peuvent observer un peu plus le ciel. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Au balcon des étoiles, bon, les beaux jours arrivent, comme vous le dites bien, juin, juillet, août. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de présenter au grand public nos activités, voilà, de leur permettre de venir nous rendre visite sous différentes formes. Et de venir passer un moment avec nous à l'observation du ciel. Et aussi, il y a des conférences. Du coup, en juin, nous proposons essentiel. Alors, on va dire qu'en juin, le phénomène le plus important, ce sera au niveau des planètes, l'opposition de Jupiter. C'est-à-dire le moment où Jupiter est au plus près de la Terre. Donc, ça va être une période pour... qui va s'étaler sur plusieurs mois, on va dire, hein, plusieurs semaines. Bon, juin, juillet, voilà, et août. On a donc cette belle planète, la plus grosse planète du système solaire, que l'on peut voir dans le ciel. Et on sera la Terre, donc, à ce moment-là, au plus près d'elle, quoi.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est exactement le 10 juin.
Bien.
Voilà, donc on a plusieurs soirées qui s'orienteront là-dessus. Mais sinon, tout en gardant le 50e anniversaire dans la tête de l'homme sur la Lune, il y a M. Serge Chevrel qui nous rendra visite pour une conférence sur les missions Apollo le samedi 15 juin à partir de 21h. Voilà, après des astro-repas que nous proposons le samedi 8 juin à partir de 19h, où au travers d'un repas et des observations du ciel, nous allons essentiellement parler de la planète Jupiter et présenter cette planète-là, dire exactement où elle se trouve, et bien sûr l'observer avec les instruments dont nous disposons à l'observatoire.
Oh oui. Il faut s'inscrire pour toutes ces animations ?
Oui, bien sûr. Alors pour l'astro-repas du 8 juin, il faut s'inscrire. C'est un samedi à partir de 19h. Donc les inscriptions sont accessibles sur le site. On peut s'inscrire, on peut nous envoyer un message via le formulaire de contact ou nous téléphoner.
Oui.
Voilà. Et après, pour les autres, les conférences, il y a donc cette conférence du 15 juin. Et le 28 juin également, Béatrice Sandré viendra nous parler de la conception de l'univers.
D'accord.
Voilà, ça c'est le vendredi 28 juin. Ces conférences, par contre, elles sont libres et accessibles à tous, bien
ouais.
entendu.
Y a-t-il des phénomènes ce mois de juin à observer ou pas ?
Eh bien, donc, je parlais du rapprochement de la Terre avec Jupiter.
Oui.
Bon, ce n'est pas la seule planète à observer. Hein. Si on est un peu patient, on verra apparaître Saturne en cours de nuit, hein, aux alentours de minuit, on va dire. Donc ça, c'est, on sait que Saturne, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Je vois que vos yeux pétillent quand on parle de Saturne, mais vous avez bien raison, parce que c'est vrai que c'est une planète, ça... dès qu'on l'a vu au travers d'une petite lunette ou un télescope, c'est quand même quelque chose de super agréable et magnifique à observer, quoi.
Oui.
Voilà, après, au niveau des planètes, il nous faut attendre le matin pour voir Vénus, après, juste avant le lever du soleil. Puis donc, après, il y a ces événements du mois de juin. Eh bien, il y a essentiellement aussi le soleil.
Oui, oui.
Le 21 juin, ou le solstice donc, d'été.
Oui.
Le premier jour de l'été, où le soleil est relativement fêté un peu dans sous toutes ses formes, avec même la fête de la musique.
Tout à fait.
Les feux de la Saint-Jean. Mais c'est le solstice d'été, quand même, qui fait la fête du soleil, qui sera organisée, je pense, chez nous, à l'Observatoire, au Balcon des Étoiles. Et donc, voilà, après, donc nous aurons donc les mois de juillet avec les planètes Saturne et puis les traditionnelles étoiles filantes du mois d'août avec la nuit de la belle étoile organisée le 14 août.
Bien. Voilà. Vous pouvez nous rappeler le site ?
Oui, c'est www.les-pléiades.asso.fr.
Et si on fait les Pléiades ou le balcon des étoiles à la trappe, on y tombe dessus. Directement.
Exactement.
Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette lumière, de cette pollution lumineuse qui est importante et il faut s'attacher aussi à faire attention à cette pollution. Merci Jacques, merci Denis et on se retrouve au mois de juillet.
Avec plaisir, merci à vous.